Ainsi, par mon œuvre, j'ai pu permettre à nos enfants et à ceux qui ne sont pas encore nés de vivre dignement dans la symphonie du monde. J'aurai rempli ma mission.
Une mission peut-être accomplie ce soir dans le rendez-vous en direct sur France Culture. Il sera question de climat, d'architecture, de théâtre, de négociations, de crise et même de plancton. Tout ça dans le cadre des 24 heures climat. Quel temps fait-il sur France Culture en partenariat avec Libération? Nous commencerons avec Romain Troublé, secrétaire général de Tara Expédition. Alors il sera question de quoi, Benoît?
Retour sur l'Odyssée Tara, l'occasion de raconter comment depuis plusieurs années, une goélette permet de mieux analyser et cartographier le monde des mers et des océans et dresser en creux le portrait d'une communauté scientifique mondiale.
19h30, la chronique revue et corrigée de Thomas Clair. Ce soir, à votre programme, Thomas.
Que choisir ?
19h35, plateau climat-architecture avec Philippe Rame qui signe Météorologie des sentiments. Un recueil de nouvelles pour un architecte qui travaille non pas sur le bâti, mais sur les éléments invisibles de l'architecture. Le climat, la ventilation, la température, la lumière, Manu Farine.
Un premier recueil de nouvelles comme une collecte de souvenirs décrits par la ressenti physiologique ou comment élucider peut-être une pratique phénoménologique de l'architecture.
Avec nous aussi Duncan Evenou et Rémi Rua, deux étudiants de Sciences Po qui ont participé au théâtre des négociations à Nanterre. On reviendra sur cette expérience inédite en France, préjouer la prochaine conférence sur le climat prévue en décembre 2015 au Bourget. Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle, le supplément week-end de Benoît Lagan que l'on ouvre sur le dernier son du jour de Zoé Svez.
Peut-être qu'on peut critiquer la présence de l'art contemporain à Versailles, on peut ne pas aimer l'art contemporain, mais on ne peut pas nier que l'art contemporain ait toujours été présent à Versailles. Ça a été le souhait de Louis XIV quand il a créé Versailles. Il s'est entouré des plus grands artistes du monde entier qui venaient contribuer au rayonnement de Versailles dans le monde entier. Et bien aujourd'hui, on continue sur cette même ligne, c'est-à-dire faire venir les créateurs qui parlent de Versailles, qui en parlent d'une autre manière. Mais on sait aussi que les artistes en général dérangent et donc ça me semble tout à fait légitime qu'une exposition d'art contemporain à Versailles fasse parler, mais ça ne suffit pas à nourrir une polémique.
Bonsoir Zoé Svez.
Bonsoir Laurent, bonsoir à tous.
C'est votre son du jour?
Oui, il est même de l'instant puisque vous entendez la directrice du château de Versailles, Catherine Pégard, que j'ai joint par téléphone il y a quelques minutes. Aujourd'hui avait lieu donc le vernissage de l'exposition Anish Kapoor dans les jardins de Versailles. Une exposition, à peine avait-elle ouverte, qu'elle était déjà attaquée, critiquée sur internet par des groupes identitaires d'extrême droite. Au centre de la polémique, une énorme sculpture posée sur le tapis vert de Le Nôtre qui s'appelle Dirty Corner, un long tunnel d'acier, sorte de cornet acoustique de 10 mètres de haut, à moitié recouvert de terre et de pierre et dans lequel on voit une cavité rouge. Anish Kapoor revendique ouvertement le caractère sexuel de cette œuvre. Il s'agit du vagin de la reine qui prend le pouvoir, commentait-il dans le JDD. Après avoir annulé plusieurs interviews car il se disait peiné par cette polémique, Anish Kapoor a quand même tenu une conférence de presse aujourd'hui sans revenir sur ses attaques.
Merci Zoé, on se retrouve lundi pour la suite de ce journal de la culture, mais tout de suite le vendredi, ça se poursuit avec le supplément week-end. Bonsoir Benoît Lagan.
Bonsoir Laurent, bonsoir à tous.
Et aujourd'hui un supplément tout vert, avec pour commencer votre traditionnelle séquence du téléspectateur hebdomadaire, écolo-compatible.
Eh bien effectivement, je me suis posé la question ce soir, comment les séries télé prennent-elles en charge la thématique écologique et climatique? Alors si ça a pu se passer dans certaines séries animalières, c'est surtout des séries post-apocalyptiques de science-fiction qui ont pris en charge ce dossier, par exemple celle produite par Steven Spielberg depuis la fin des années 80. Souvenez-vous, dans les années 90...
Le 21e siècle, l'espèce humaine a colonisé le seul endroit inexploré de la Terre, les océans. Moi, commandant du SeaQuest, ainsi que mon équipage, en sommes les gardiens. Notre avenir est lié à la sauvegarde des océans.
J'avais jamais vu SeaQuest.
SeaQuest, c'est passé sur TF1 pourtant. Une série improbable, située entre le monde du silence du commandant Cousteau, Flipper le dauphin et Star Trek. L'action se déroule en 2018 dans un milieu sous-marin.
Alors qui avez-vous contacté pour nous en parler ce soir?
Eh bien, afin de ne pas trop alourdir mon bilan carbone, j'ai appelé le journaliste Pierre Cerisier, critique et spécialiste de série. Il nous parle de cette question.
Elle est peu abordée, ça ne veut pas dire qu'elle ne l'a jamais été. Et je repense à une série que tout le monde connaît sans doute, qui s'appelle « La Six Chiens Fidèles ». Vous suivez les aventures d'un chien qui était très débrouillard et très malin, et qui abordait effectivement ces questions d'écologie, de pollution, de décharges qui n'étaient pas bien fermées, de surconsommation, de produits qu'on jetait et que finalement on aurait pu mieux utiliser ou recycler. Et puis, petit à petit, j'ai l'impression que l'écologie, à mesure que l'opinion publique était sensibilisée à ce problème dans les années 90 et 2000 avec le réchauffement climatique. Cette question de l'écologie a un peu disparu. C'est bizarrement un sujet qui n'est pas très glamour, qui n'est pas très vendeur, notamment aux États-Unis où cette question reste malgré tout sensible. Il faut quand même se rappeler que les États-Unis n'ont jamais ratifié le protocole de Kyoto sur les émissions de gaz à effet de serre. J'ai aussi l'impression que, notamment peut-être sur les séries des grandes chaînes américaines, donc qui vivent grâce à la publicité, je ne suis pas sûr que les annonceurs aient tant intérêt que ça à aborder ces thématiques de, on va dire, la limitation de la consommation, de la préoccupation de son environnement, de un peu se restreindre, parce que le but, c'est quand même de placer des encarts publicitaires dans lesquels on incite les gens à consommer toujours plus.
Et qu'en est-il dans d'autres zones géographiques ?
Eh bien, j'ai demandé à Pierre Cerisier si les séries du nord de l'Europe prenaient, par exemple, plus en charge ce dossier.
Par exemple, si on prend une série comme Borgen, la question de l'écologie, quand Birgit Nyborg devient Premier ministre, elle est confrontée à un moment dans un épisode à cette question-là. Et ça tient sans doute aussi parce que le public scandinave ou du nord de l'Europe est lui-même déjà plus sensibilisé et entre guillemets plus écolo-responsable, c'est-à-dire qu'il fait plus attention à son environnement, il a plus l'habitude de recycler les déchets, de rouler en vélo, de moins utiliser sa voiture. C'est un sujet qui doit être adapté aux mentalités du public auquel il est proposé.
Alors justement, notez sur ce sujet qu'Arte diffusera bientôt une autre série scandinave, une série norvégienne d'anticipation géopolitico-énergétique qui met en scène dans un futur proche l'invasion de la Norvège par la Russie. Et la Russie qui veut prendre possession des réserves de pétrole de la Norvège. Nous en reparlerons dans ce supplément un jour prochain.
Et on poursuit tout de suite avec votre brève revue de presse de la semaine et on commence avec Libération.
Oui, dans la série Espèces en voie de disparition, lundi, le quotidien Libération lançait sa nouvelle formule dans un monde de plus en plus difficile pour la presse écrite, soumise à la dure loi du marché. Et dans ce premier numéro, donc nouvelle formule, le quotidien Quadragénaire mettait en une le film de Stéphane Brisé, La loi du marché. L'occasion pour le quotidien de faire voir le film à un chômeur de 50 ans et le témoin de Libé de déclarer à propos notamment de la scène sur Pôle emploi qui ouvre le film, on dirait une caméra cachée dans une agence. Le type, veuillez comprendre, Vincent Lindon, essaie de défendre son cas face à une structure qui ne l'entend pas, incapable de s'adapter à lui. Fin de citation.
Et demain ? Eh bien demain, ce sera samedi. Une fois nos 24 heures climat terminées, qu'est-ce qui va se passer ?
Eh bien, vous pourrez venir vous mettre au frais à la maison de Radio France pour assister à 21h à une soirée spéciale consacrée à Robert Desnos, composée de lectures et de discussions avec notamment Anne Eger, biographe de Robert Desnos, l'acteur Gabriel Dufay et l'universitaire Carole Auroué, et qui sera présentée, soirée présentée par François Angelier. Eh bien, cette émission, vous pourrez venir la suivre en direct, en public, au studio 105 de la Maison de la Radio. Vous pouvez réserver vos places dès maintenant sur le site maisondelaradio.fr.
On va commencer tout de suite donc cette émission avec nos deux invités de sciences politiques, Duncan Evenou et Rémi Rua. Vous êtes deux des 200 étudiants de Sciences Po à Paris qui ont participé le week-end dernier au projet Make It Work, théâtre des négociations. C'était au théâtre des Amandiers à Nanterre. Il s'agissait de préjouer la 21e conférence internationale sur le climat qui va se tenir à Paris en décembre à l'initiative de l'ONU. Quels étaient votre rôle à chacun ? Duncan Evenou, quel était votre rôle à vous dans ce théâtre des négociations ?
Pendant le week-end où on a commencé à faire cette négociation, mon rôle à moi était de représenter l'ambassadeur de la présidence.
Un rôle ambigu, c'est-à-dire ?
Un rôle ambigu dans le sens où, tout au long de la conception de ce projet, j'ai essayé de faire en sorte que la négociation ait lieu tout en essayant de la décaler du mieux que possible vers d'autres horizons.
Rémi Rua, quel était votre rôle ?
Donc moi, je jouais le rôle du vice-président de la conférence des partis, un rôle de support à la présidence et alternativement, quand la présidence n'était pas là, de modérer aussi les négociations.
Alors, je vais revenir plus particulièrement sur ce que vous aviez mis en place. Duncan Evenou, vous avez intégré le programme expérimental SPEAP d'art et de politique dirigé par Bruno Latour en qualité de comédien et de metteur en scène. Et tout au long de cette année, vous vous êtes spécialisé sur le sujet des conférences sur le climat en ayant une approche théâtrale du problème. Quel était votre enjeu ? Pourquoi une approche théâtrale du problème ?
Une approche théâtrale, je ne sais pas si c'est le terme, mais en tout cas, le fait que tout d'un coup, en tant que comédien ou metteur en scène, je me retrouve confronté à une problématique qui est celle du changement climatique, qui n'est absolument pas traité sur nos plateaux de théâtre, ou alors très très peu, par très peu de metteurs en scène ou très peu d'auteurs. Et la chose qui a été assez étonnante pour moi dans le travail, ça a été de me rendre compte qu'il y avait une nécessité absolue à parler de cette thématique, une urgence à le faire, qui allait être un moyen de repenser, refonder le geste de plateau tel qu'il est fait maintenant, tant sur le plan de l'interprétation que sur la conception de notre conception du décor, notre conception de la mise en scène et des écritures.
Rémi Rua, comment vous avez regardé justement cette intervention théâtrale et théâtralisée avec une scénographie ?
Particulièrement en ce qui concerne le rôle de Duncan, c'était tout à fait nécessaire dans certains moments où on essayait d'inventer un nouveau type de collaboration et de coopération et où les 200 délégués qui négocient ont besoin de penser ensemble. Et moi, je me souviens d'un moment en particulier où il a fallu que tous les délégués frappent le sol avec leurs pieds en rythme sous la commande de Duncan pour pouvoir ensuite démarrer les négociations en étant tous totalement ensemble. Donc, que ce soit dans la scénographie, que ce soit dans les modes de collaboration, il y avait énormément d'apports du point de vue théâtral de ce côté-là. Ça a apporté beaucoup à la dramaturgie.
D'accord, et venez-vous ?
C'est-à-dire que aussi la raison pour laquelle on a décidé de faire cet événement dans un théâtre, c'était très important de le faire dans un théâtre, pas seulement à Sciences Po ou au Bourget ou quoi que ce soit, mais parce que tout d'un coup on pouvait le placer sous le signe des possibles, le possible de tout d'un coup plaider pour l'imaginaire comme solution, et que tout d'un coup tous ces délégués allaient se retrouver dans d'autres lieux qu'on avait conçus pour le projet. Et on a pu voir des délégués qui étaient en train de négocier dans des espaces enneigés, embrumés, inondés avec des bateaux à la dérive, dans une douce lumière apocalyptique. Là, tout d'un coup aussi, une chose qui a été étonnante, c'était de pouvoir ouvrir les grandes portes de la salle transformable et de laisser pénétrer la lumière naturelle et le vent qui soufflait les feuilles qui étaient sur les tables. Qui a amené un paradoxe assez troublant, c'est qu'on était en train de parler de négociations sur le climat, de changement climatique, et la présence physique du vent qui s'invite à la table des négociations posait tout d'un coup problème. Voilà, ça c'était un premier élément. Et la deuxième chose, c'est qu'on a invité de nouveaux acteurs sur ces plateaux. C'est des nouveaux personnages, c'est-à-dire qu'on a invité à la négociation les sols, l'océan, les forêts, les indigènes, des gens qui n'ont normalement pas voix à la négociation, n'ont pas voix au chapitre. Et c'est là où le théâtre justement intervient, c'est que on peut enfin parler au nom de ceux qui sont laissés pour compte. Et c'est là aussi où le théâtre est éminemment politique. Et enfin, là, je terminerai sur ce dernier aspect de pourquoi on l'a fait au théâtre de Nanterre, qui, pour reprendre les mots de Philippe Ken,
Philippe Ken, qui est le co-directeur, parce qu'ils sont plusieurs en fait.
Nathalie Vimeux et Philippe Ken co-dirigent effectivement le Nanterre Amandier. C'est un terrain, c'est un théâtre qui a une ADN très particulière, pour reprendre ces mots justement, puisqu'on a vu, il est chargé d'une histoire politique très très forte, et que c'était peut-être dans ce théâtre-là en particulier que tout d'un coup les étudiants pouvaient réaliser qu'il y avait d'autres possibles à imaginer.
Rémi Rua, vous avez été vice-président, et je pense que vous avez été ou bien chahuté ou bien qu'il s'est passé quelque chose. Dans la nuit de samedi à dimanche, il y a eu une tentative de putsch, ratée peut-être. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Je parlerai pas de putsch. Je pense que les étudiants avaient tous énormément d'éléments à apporter en termes d'innovation. Et le format de la simulation, qui était renflé aussi du format des négociations, a apparu à certains étudiants moins adaptés, notamment parce qu'on avait de nouveaux acteurs autour de la table, des océans, des acteurs non étatiques. Et donc les modes de collaboration et de négociation entre les acteurs non étatiques et les acteurs étatiques n'étaient pas suffisamment clarifiés. Si bien qu'on a eu des étudiants qui ont décidé de se mettre à négocier sous d'autres modes, de s'écarter d'un autre groupe d'étudiants. Et donc notre rôle dans la présidence, et en particulier dans la vice-présidence, c'est pour ça qu'on il y a eu du chahutage, c'est d'essayer de faire le pont entre ces deux groupes. Et c'est quelque chose qui s'est fait pendant la nuit, où justement on a utilisé ce tas de verdure. C'était complètement improvisé, mais on s'est dit à ce moment-là, on a deux groupes qui ne travaillent pas ensemble, il faut joindre les deux morceaux. Donc on leur a demandé de tous s'asseoir dans le théâtre de verdure, donc une arène de négociation naturelle. Et c'est à ce moment-là qu'on a pris la parole avec la présidence pour essayer de remotiver un peu ces délégués qui avaient envie de produire quelque chose, mais qui n'arrivaient pas à s'écouter. Et les négociations se sont poursuivies pendant toute la nuit. Et moi, j'étais vraiment fasciné par tous les négociateurs qui étaient à un niveau d'intensité dans la négociation qui était très, très impressionnant, qui ont négocié jusqu'à 7 heures du matin. Et le lendemain matin, le négociateur était vraiment transformé. Ils avaient réussi à produire quelque chose à la fois sur le fond et sur la forme. Et il y avait tous les délégués qui avaient procédé à des méthodes de négociation innovatrices un peu en dehors du cadre, ont réussi à se rattacher aux autres et à montrer que l'approche qu'ils proposaient était complémentaire et qu'on pouvait avoir une vision plus globale, plus holistique, qui mélangeait des points de vue de visualisation, des cartographies, avec des aspects plus sur le fond, sur un texte juridique.
Donc ça, c'était... Justement, sur le fond, quels ont été les sujets les plus polémiques, ceux qui ont déclenché les passions de la part des négociateurs ?
Il y avait un sujet en particulier qui était la place des acteurs non étatiques, la souveraineté qu'on peut avoir en tant qu'océan, en tant que forêt, dans des négociations. Et donc il y a cet aspect-là.
C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui jouaient le rôle des océans, c'est ça le truc.
D'accord. C'était des représentants des océans, c'est-à-dire qu'ils jouaient pas à moi l'océan, mais des experts ou des ONG qui protégeaient les océans et donc qui essayaient de négocier pour avoir ça. Donc on avait un sujet en particulier, par exemple, sur l'exploration de pétrole dans l'Arctique, qui a été très tendu, sur les réfugiés climatiques, un sujet qu'on a osé traiter, nous, dans notre négociation, alors qu'il est tellement non consensuel qu'il n'est même pas abordé dans la vraie COP21. Donc certains aspects comme celui-ci, ou que faire de la gouvernance globale du climat, comment représenter des acteurs non étatiques, tout ça, c'était des sujets qui ont été très clivants, très intéressants à suivre.
Romain Tromblay, peut-être une réaction à ce que vous venez d'entendre, vous, donc un des membres de l'expédition TARAM.
C'est intéressant, effectivement, les océans, les forêts, etc. Souvent, dans ces négociations, c'est en dehors. Par exemple, Kyoto, ça fait 21 ans qu'on négocie, et depuis 21 ans, on a oublié de parler d'océans, qui représentent 71% de la planète.
Philippe Ram, je crois que vous connaissez le projet qui a été mené à Nanterre, à Mandier.
Oui, on m'avait proposé d'intervenir comme architecte. Sur la question des choses comme sujet de droit, effectivement, moi, c'est une chose qui m'a intéressé il y a très longtemps, hein, je dois dire. On avait même fait, à une époque, on voulait faire une sorte de droit des matériaux de construction, enfin en se disant que ça serait intéressant de laisser, en fait, de réengager les matériaux de construction ou les choses elles-mêmes dans des processus naturels et de pas penser l'architecte contre la nature, mais de se dire, en fait, les choses peuvent aller ensemble et prendre en considération, par exemple, l'érosion des bâtiments, la corrosion, la pluie, le poids, enfin, prendre l'ensemble des éléments comme ça, naturels, et de se dire que l'architecte, en fait, travaille avec ces éléments et non pas contre ces éléments.
Comme à tous nos invités depuis le début de la saison, on vous a demandé à chacun un son, Duncan Envenou et Rémi Rua. D'abord, le son de Duncan Envenou, qui est en lien, bien sûr, avec la thématique du jour.
My country is being tested by this hailstorm called Super Typhoon Haiyan. Up to this hour, Mr. President, we remain uncertain as to the full extent of the damage.
Qu'est-ce qu'on entend dans Camp Envenou?
On est en train d'entendre en ce moment la délégation des Philippines qui est en train de faire un discours pendant la conférence 19 sur le climat, qui était en Pologne, si je me rappelle bien. Et la délégation des Philippines, il y a cet événement qui est malheureux, c'est qu'un cyclone est en train de ravager les côtes des Philippines. Et le délégué qui représente les Philippines essaye justement d'expliquer que sa famille, il a peu de contact avec eux, qu'ils ont dû déterrer de leurs mains propres les derniers survivants qui restaient. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que pour la première fois, un petit peu comme ce que je racontais, sur tout d'un coup le vent qui est en train de pénétrer dans la salle et la présence physique de l'élément nature, chose qui, tout d'un coup, on n'a pas envie de la voir physiquement avec nous alors que c'est de ça dont on est en train de parler. C'est ça qui s'est passé pendant cette conférence en Pologne. C'est-à-dire que tout d'un coup, le typhon était présent et ça a bousculé, ça a renversé totalement le format de négociation classique.
Votre son, Rémi Rua, plus musical.
I can change the world with my own two hands, make it a better place.
La raison de ce choix, et qui en entend?
On entend Ben Harper et Jack Johnson sur une chanson qui explique que tout le monde peut agir et qu'il ne faut pas attendre justement que les grands négociateurs prennent décision pour agir. On a tous notre contribution à apporter et c'est ça un peu pour moi l'esprit aussi de la COP21, c'est de montrer que tous les acteurs peuvent agir à leur échelle contre le changement climatique.
Qu'est-ce que cette opération, donc ce théâtre des négociations, a mis à jour non pas sur l'état climatique, mais plutôt sur les rapports que vous avez entre vous à Sciences Po, entre peut-être deux clans d'étudiants? Quand même, nous,
moi, on va dire que tout au long de l'année, tout mon travail, ça a été essayer de faire en sorte d'arriver à lier des logiques qui, des mondes qui, a priori, n'arrivent pas à se parler normalement. Il a fallu faire le pont, effectivement, entre le laboratoire, par exemple, de recherche SPIP et le théâtre. Ça a été une première chose. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'une école en résidence dans un théâtre? Et qui plus est, une école qui n'est pas une école de comédiens, mais une école de scientifiques, artistes, chercheurs qui viennent prendre les lieux. Comment est-ce qu'on, tout d'un coup, on autorise et on légitime la présence de ces gens-là dans les lieux d'un théâtre? Ça, c'est une première chose qui a été très compliquée à faire. Je dirais que le deuxième dialogue qui a été à faire dans le travail, pendant le processus, ça a été ce qu'on appelait le lien entre le groupe du G8, le secrétariat qui est celui de la présidence, donc, qui est composé par les étudiants de Sciences Po qui sont eux...
Par Rémi Rua.
Par Rémi Rua et... le groupe SPIP, c'est-à-dire que comment est-ce que tout d'un coup, pour caricaturer, on a les excentriques qui ont des idées un petit peu folles d'un côté et le secrétariat qui connaît la procédure du travail et qui veut l'exécuter, et comment tout d'un coup chacun arrive à changer, à se déplacer de sa position initiale. Ça a été par exemple tout un travail qu'il a fallu faire.
Rémi Rua, vous avez vu vraiment cela en jeu?
Oui, et pour
deux mondes qui s'affrontent presque.
Pas forcément qui s'affrontent, et ce que je veux dire par rapport à ça, c'est surtout qu'en fait, ce dialogue entre ces deux mondes, c'est un peu multiplié par 200 quand les étudiants sont arrivés au théâtre. Et c'est ça qu'on a vu se dérouler pendant toute une semaine. Et à la fin, le fait de voir à travers la nuit, à travers la dernière journée du dimanche, tout ce travail se réunir ensemble et proposer quelque chose, non seulement qui apporte quelques réponses, mais surtout qui pose énormément de questions, c'était quelque chose de très beau. Et là, on a déjà plusieurs étudiants à vouloir se rencontrer à la fois ce soir, ce week-end, pour continuer à travailler et voir quel est le message qu'on peut envoyer peut-être de ça.
Merci Duncan Evenou et Rémi Rea. Vous restez avec nous pour la suite du programme du rendez-vous, puisque ça vous concerne aussi.
Le rendez-vous.
Cette mission a été menée à bord de ce bateau, Tara.
On avait un ami qui était zoologiste, qui nous a appris beaucoup de choses sur le plancton. Il nous a dit une fois que quand tu étais un peu déprimé ou tu te sentais pas bien, hop, tu te faisais un petit plancton, puis ça va mieux.
Cet océan, il ne peut pas que subir le climat, il est aussi acteur du climat. Ça marche aujourd'hui que si l'océan est maintenu en bonne santé.
Plateau à bâbord avec vous, Romain Troublé. Vous êtes le secrétaire général de Tara Expédition. C'est une fondation chargée depuis le début des années 2000 de réaliser des expéditions à bord de la goélette Tara afin d'étudier l'état des océans et plus précisément l'impact des changements climatiques et de la crise écologique sur les océans. Vous êtes en charge donc de la direction opérationnelle de Tara Expédition depuis 2004, c'est-à-dire un an après l'acquisition du fameux bateau Tara, un bateau qui auparavant était nommé Antarctica, hein, qui avait été construit 20 ans auparavant par Jean-Louis Etienne en 96. Qu'est-ce qui a poussé à lancer Tara en 2003-2004? Dans quel contexte?
C'est des gens comme vous et moi qui animaient une entreprise dans le monde entier, qui se sont dit un jour, faut faire quelque chose pour parler d'environnement, et faut parler d'environnement à travers l'aventure, réenchanter un peu cette aventure humaine qui est l'exploration de l'océan, mais de la planète en général. Et à travers ça, expliquer les enjeux, pourquoi on fait ça, pourquoi on amène des scientifiques, pourquoi les artistes se mobilisent aussi là-dessus.
Oui, parce qu'il y a des scientifiques, mais il y a aussi des artistes.
Les artistes, les scientifiques sont embarqués à bord du bateau chaque année. Et c'est intéressant, en fait, on renoue finalement avec les grandes missions du 19e siècle, de Darwin, du Challenger, qui partaient pendant 4 ans à la découverte de la planète à l'époque. Et cette aventure-là, aujourd'hui, ben, elle interpelle les gens et puis s'intéresse au sujet. Et puis, du coup, on peut leur expliquer, on peut partager avec eux beaucoup de questions que la science se pose et beaucoup de doutes que la science a encore aujourd'hui sur les sujets. Et ça, c'est super intéressant et c'est super motivant aussi de le faire avec les jeunes et de le faire avec toutes les strates de la société.
Benoît.
Alors, vous avez présenté il y a un peu plus d'un mois les résultats d'une importante étude qui a été publiée dans la revue Science, une étude centrée sur l'analyse de 35 000 échantillons de plancton. Que cherchiez-vous à comprendre alors à ce moment-là et quels étaient vos objectifs pour me troubler?
Alors, dans la mer, il y a des micro-organismes tout petits, des microbes qui dérivent et planctos, le grec planctos, ça veut dire dérivé, donc le plancton, tout ce qui dérive dans la mer, par exemple, une méduse est un plancton, mais aussi des bactéries, des virus, des larves de poissons, des petits animaux, etc. Et ce petit monde des océans, on n'en connaît rien, on connaît même pas 2-3% de ce qui vit dans l'eau aujourd'hui, avant que le bateau parte en mission. Et donc on est parti à la découverte de ces petits peuples, et après 6 ans, 4 ans d'expédition et 3 ans dans les laboratoires, on a publié dans Science quelque chose comme, si vous voulez, c'est comme si on avait allumé la lumière dans un hangar dans le noir qui était l'océan. On était jusqu'à maintenant avec une petite torche à voir quelles espèces il y avait là-dedans et voilà. Et là, je pense qu'on a allumé la lumière du hangar. On voit pas encore complètement les murs, on voit pas encore complètement toute la biodiversité qu'on a. Mais en tout cas, on a une bien bonne vision de ce qui s'y passe. Maintenant, la question c'est qui fait quoi, pourquoi, avec qui, comment, à quoi ils sont sensibles. C'est pour le futur.
J'imagine que de prélever des échantillons de plancton dans plusieurs zones maritimes, ça a dû être un casse-tête administratif pour demander les autorisations. Avec le recul, est-ce que ça vous a permis de dessiner une cartographie plus nette et précise des pays qui sont impliqués sur les questions environnementales, Romain Troublé?
Allez, jusque-là, c'est compliqué. Il y a quelques pays qui n'ont soit pas répondu, soit pas entendu la question, soit parfois même dit non, catégoriquement. Mais sur les 35 pays qu'on a visités, les 35 pays avec lesquels on a collaboré pour faire cette recherche, seulement 4 n'ont pas répondu ou ont répondu négativement.
Donc, c'est qui?
C'est assez peu, vous voulez savoir?
Bah oui.
L'Inde a refusé. Ceux qui n'ont pas répondu, c'est Oman et l'Équateur et l'Arabie Saoudite. Mais encore une fois, c'est pour diverses raisons. Je ne pense pas que ce soit des raisons tout le temps fondées. Parfois, c'est des questions administratives.
Benoît.
L'ambition de Tara, c'est de réussir à faire cohabiter donc à bord d'une goélette de 36 mètres de long, vous l'évoquiez tout à l'heure, donc des chercheurs d'univers différents, des marins, mais aussi des artistes. Qu'est-ce que vous attendez justement de cette confrontation entre ces trois mondes ?
Ce qui m'intéresse, moi, c'est de partager ce qu'ils font. Et les chercheurs, ils ont leur langage, pas forcément toujours très, très audible. On aime bien chez Tara mélanger les gens. Il y a aussi les journalistes à bord qui posent des questions, qui essaient de raconter, de comprendre ce qui s'y passe, comprendre ce qu'on fait. Et les artistes, ils ont une façon aussi de raconter tous ces grands enjeux à des gens. Ils s'adressent à des gens qui n'ont rien à faire de la nature, rien à faire de l'environnement, du climat, etc. Mais qui sont touchés par la sensibilité artistique, qui est universelle. Et ça, c'est très fort, je trouve, et ça marche très très bien. On touche des gens qu'on n'a pas l'habitude d'interpeller, et ça, c'est très important.
Par exemple, quel a pu être l'apport des artistes, ou d'un artiste en particulier, qui vous aura le plus marqué, Romain Troublé ?
Oh, on a eu à bord de bateau Tara des grands artistes comme Sebastião Salgado, qui a photographié à bord de Tara l'Antarctique pour son gros projet de Genesis qui est actuellement en tournée dans le monde. On a eu Pierre Huyghe qui a fait toute une vidéo il cherchait un manchot albinos. Il m'a dit, Romain, je vais venir en Antarctique et puis je voudrais trouver qu'on trouve un manchot albinos. Alors, c'était une bonne question.
Il l'a trouvé ?
Et on l'a trouvé, le manchot albinos. On l'a trouvé, il a pas peint. Et il a fait une super œuvre cinématographique de 15 minutes qui était visite d'ailleurs pas longtemps à la Fondation Louis Vuitton.
Benoît.
Au départ de l'élaboration du projet scientifique sur les planctons, le débat était, paraît-il, très animé entre les biologistes et les océanographes. Qu'est-ce qui les opposait ?
Ah oui, moi j'ai vu ça de l'extérieur, donc j'étais participé à toutes ces réunions de préparation. Et il y a deux visions de l'océan. Il y a la vision physique. La sonographie physique, les physiciens qui s'intéressent à la température, à la salinité, au courant, aux masses d'eau. Et puis il y a l'approche des biologistes, qui est une approche assez nouvelle, parce que la technologie est assez récente finalement pour s'intéresser à la biologie de l'océan. Et les deux approches étaient assez antinomiques. Et il y a eu des grands débats au début pour tomber d'accord, comme une négociation climatique, pour tomber d'accord sur comment on allait faire pour caractériser tout ça et pour découvrir ces océans. Ça a duré un an. Et au bout d'un an, on a trouvé un modus operandi et ça a marché parce que le succès de faire la couverture de Science et de publier 5 articles dans Science, c'est unique. Unique.
D'accord, venez-nous, est-ce qu'il y a, je sais pas, un commentaire que vous voudriez faire ou une question que vous aimeriez poser ?
Non, c'est-à-dire que c'est assez drôle cette métaphore du bateau qui était un peu la nôtre aussi d'une certaine manière, où c'était des scientifiques, des politiciens et des artistes réunis dans le même espace pour essayer de traiter la même question.
Même bateau.
Qu'est-ce que moi, comédien, tout d'un coup, je pouvais avoir à faire dans ce bateau face à cette négociation ?
De la même façon qu'il y a des artistes aux côtés des
Exactement,
biologistes.
Exactement, ouais. Et donc j'avais proposé cette solution qui était de tout d'un coup avoir... de par mon rôle d'ambassadeur de la présidence, la possibilité de donner des petites trouées percées littéraires et poétiques.
C'est-à-dire que vous les bombardiez de textes de temps en temps,
c'est-à-dire qu'en plein milieu de la négociation, je demandais ou pas l'autorisation à mes camarades de la présidence et je pouvais leur donner une citation de Julian Beck sur « Je plaide pour l'imagination comme solution » ou tout d'un coup un texte de Jack London sur « Ce que la vie signifie pour moi » où justement il explique qu'il faut sortir de l'égoïsme général ou des textes de Naomi Klein que mes camarades m'envoyaient par texto en me disant « Il faut absolument que tu dises cette citation de Einstein, là maintenant tout de suite, c'est ça qu'il faut faire.
Est-ce que la présence des artistes ont pu modifier quelque chose de l'appréhension des biologistes ou des scientifiques qui étaient à bord de Tara ?
Non, par contre,
Romain Troublé.
Je pense pas qu'on peut dire ça, mais en tout cas ça ouvre l'esprit, ça fait quitter sa science, ça fait s'ouvrir sur les autres, ça fait aussi prendre de la hauteur sur les enjeux qu'on traite à bord, et qu'on traite, parce qu'à bord du bateau c'est quand même de la petite cuisine de mon laboratoire, hein. C'est toujours faire la même chose autour du monde pendant 4 ans. Tous les deux jours, c'est dur. Et puis la mer, il y a eu beaucoup de tempêtes. Donc, c'était très dur à bord du bateau. Et d'avoir les artistes qui avaient aussi une autre vision, complètement parfois décalée par rapport au moment, à l'instant, ou par rapport aux travaux des scientifiques à bord, c'était très riche.
C'est quelque chose qui vous tenterait, cette expérience, Philippe Ram, architecte ?
Oui, ça me plairait beaucoup. Mais effectivement, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est le lien entre les scientifiques et les artistes. Ouais. Et je pense que la question du réchauffement climatique, les problèmes qu'il y a aujourd'hui liés à ces problèmes qui sont scientifiques, en fait, transforment aussi la mission de l'architecte ou de l'artiste ou de l'architecte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être la génération qui m'a précédé était complètement détachée en fait des choses. C'était on racontait des histoires, on était était beaucoup plus dans la narration, dans la fiction. Et aujourd'hui, en fait, il y a une sorte de principe de réalité très fort qui arrive et qui nous force, en fait, à nous intéresser de nouveau à des choses vraiment scientifiques, vraiment physiques, à des phénomènes météorologiques, à travailler non plus seulement sur des métaphores ou des analogies, mais travailler réellement concrètement dans le monde présent.
Quelle va être la prochaine expédition, le sujet de la prochaine expédition de Tara?
Alors là, on a eu peint sur la planche pour quelques dizaines d'années dans les laboratoires avec les scientifiques du CNRS, etc. et les autres. Et la prochaine mission de Tara, sur laquelle on travaille depuis presque un an, ça s'intéressera au corail dans le Pacifique, les récifs coralliens face au changement climatique, au changement global, pas que le climat, la pollution, pollution directe, pollution diffuse. Et ça entre l'Est Pacifique et le Japon et la Chine.
Benoît.
Alors Romain Troublé, nous vous avons aussi demandé un son qui vous a marqué. Voici ce que vous avez choisi.
Il faut sauver les océans, H2O mon chéri. Il faut aider les poissons, faut nettoyer la baignoire, faut vidanger les Bermudes, faut arrêter les pêches mêlent bas, les pêches mêlent tout trop bas. Allons repêcher le capitaine, c'est un poisson mangeable et délicieux. Voilà, la joie du Sénégal et des villages côtiers de l'Atlantique. Oui, madame, oui, oui, très bien. Protégez la sardine, madame, c'est d'accord. Le monsieur, là, eh bien, tout le monde participe. Les marsouins, très bien, si vous voulez. Madame, les éléphants de mer, très bien, oui. Il faut le protéger, l'éléphant de mer, c'est un animal sans défense, absolument. Monsieur, oui, les vaches marines, alors très bien, oui, il faut attaquer les mille vaches, mais il faut défendre les mille vaches marines, je suis d'accord. Monsieur, oui, non, pas la marine, non, laissez couler, la petite fille avec son poulpe là, mais oui, j'aurais voulu montrer aux enfants ces dorades du flot bleu, ces poissons d'or, ces poissons chantants, des écumes de fleurs ont bercé mes dérades, et d'ineffables vents m'ont ailé par instant, merci, Arthur Rimbaud est avec nous, pas de changement sans combat.
Identification de ce son, et pourquoi vous l'avez choisi?
Mais c'est du théâtre.
C'est Bonafé.
Jacques Bonafé.
Ouais, Jacques Bonafé, un jour j'allume la radio, je tombe sur le début, là où on est tombé là, je tombe sur ce qu'il dit. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et j'adore sa façon de parler, son enthousiasme, sa passion qu'il met dans là-dedans. J'adore ce son.
Rémi Rua, puisqu'on parle de théâtre à l'instant avec Jacques Bonafé, est-ce que ça vous a donné envie d'en faire ce que vous avez mené, votre rôle de vice-président pendant ce théâtre des négociations à Nanterre?
Ah, ça donne envie d'agir plus, pas forcément en tant que négociateur, mais aussi en tant qu'acteur, parce que c'est aussi de ça qu'il s'agit. On a 200 étudiants qui ont partagé quelque chose d'assez intense, d'assez énorme pendant une semaine. Et maintenant, tout ce que j'ai envie personnellement, c'est de continuer et de pouvoir construire un message, un vrai message, qu'on puisse transmettre non seulement aux négociateurs, mais aussi aux acteurs qui tous les jours trouvent des solutions face au changement climatique.
Eh bien, Duncan Evenou, Rémi Rua, Romain Troublé, Philippe Ramon, vous retrouve dans quelques instants. Et tout de suite, c'est la chronique de Thomas Clerc.
Le rendez-vous. Rendez-vous. La chronique.
Et comme chaque vendredi, une revue qui sera sévèrement corrigée, ou pas, par vous Thomas Clerc. Ce soir,
j'ai pris Que choisir, qui s'intitule avec discrétion un magazine au service des consommateurs, car il y en a plusieurs des magazines. Il s'affiche en tout cas comme la seule revue consumériste indé, comme il y a du cinéma indé, pendante. J'adore les titres de journaux avec des points d'interrogation. C'est rare dans la jungle informative, qui se présente toujours sous une modalité affirmative. D'ailleurs, pour discréditer la concurrence, c'est un peu l'objectif avoué de ce journal, essayez la tactique du point d'interrogation derrière les titres existants. Gala, L'Express, ça marche bien avec les titres en pronom personnel. Elle, lui, bref, c'est le genre de titre que j'affectionne. Que choisir paye cash sur 68 pages en désignant à la vindicte populaire les responsables de la situation. La mauvaise qualité produite, ou plutôt surproduite, par les multinationales. Pour ce faire, une seule méthode inlassablement répétée, le test de qualité, rationalisé à l'échelle d'un magazine et d'une existence. Tout est passé au crible de la valeur, d'un rêve d'objectivité totale, imaginé par une sorte de dieu de l'expertise. Le sommaire de ce numéro 537 s'annonce impitoyable pour les aspirateurs, les cuisinières, les pianos, les sièges auto-enfants, les réfrigérateurs américains, les huiles d'olive et même, tenez-vous bien, les éponges grattantes. Toute la réalité matérielle et morale se trouve convoquée par ces greffiers auprès desquels Balzac lui-même ferait office de sous-chef de rayon. La forme clé du magazine est le tableau comparatif. 46 aspirateurs sont fichés au moyen de 31 critères, ce qui fait 204 cases. La sévérité des juges est d'ailleurs sans égale, puisque les notes plafond des cuisinières, par exemple, n'excèdent pas 12,8, Brandt, pour descendre au-dessous de la moyenne avec Sauter. On ne peut être qu'admiratif devant le volontarisme frénétique de ces évaluateurs, qui ont jeté leur dévolu sur 20 éponges grattantes, avec cette fois un écart de notation de 17 à 9, et un raffinement dans la classification à faire pâlir un criminologue, puisqu'on découvre qu'à côté des éponges végétales et des synthétiques, il existe aussi une catégorie hybride des éponges bicouches, apparue, je cite, suite à une pénurie de cellulose. Au fur et à mesure qu'on plonge dans le cœur de Que choisir, on découvre que le monde est essentiellement suspect. Il faut se méfier de tout, et derrière son idéal scientifique se cache une petite morale à la Thénardier, où l'essentiel est de ne pas se faire avoir. Coup d'œil chez le voisin, comparatif de prix, calcul sur la taille réelle des emballages, notamment les produits cosmétiques, qui mentent beaucoup. Certains flacons carottent jusqu'à 12% du volume de la boîte de contenu dans le produit, enfin l'inverse. Oui, la suspicion règne en maître. Si la facture d'eau augmente, c'est la faute aux lingettes. Arrêtez la viande de cheval, les passeports des chevaux avaient été falsifiés. Encore un coup de Sepp Blatter. La splendide rubrique produits de rappel est incontournable. Ce mois-ci, par hasard, enfin au hasard, la pâte à tartiner chocolat blanc. Problème, présence de noisettes non mentionnées. Les canards en pluche au champ. Problème, faiblesse au niveau des coutures pouvant donner accès au rembourrage de la pluche. Quant au déguisement, le pirate des ténèbres, il est tout simplement qualifié de produit dangereux. Il est vrai qu'il est terrifiant avec sa tête de mort surmontée d'une serpillière rouge et dont le t-shirt aux fausses côtes apparentes. Quel dommage d'ailleurs que cette catégorie produit de rappel n'existe pas dans le monde des arts. On aurait pu s'en servir cette année pour la révélation, pour la sélection française du Festival de Cannes. Produit de rappel, Jacques Audiard. Problème, mise en scène. Produit de rappel, Mai Wen. Problème, mise en scène. Produit de rappel, Valérie Donzelli. Problème, mise en scène. Franchement, Que choisir vaut le détour. Chaque article est l'occasion d'une nouvelle fantastique à fondement ultra réaliste. Ainsi, ce couple de retraités qui s'est rendu chez Ikea pour rajeunir. Saliterie. Ces braves gens ont dû rendre les matelas achetés tant ils dégorgeaient une odeur pestilentielle qui avait dépassé les espérances de l'étiquette. Une odeur de neuf qui disparaissait progressivement, paraît-il. Bref, Que choisir est une suite de fables environnementales. Je vous laisse page 64 avec l'étagère fantôme.
Des réactions à ce que l'on vient d'entendre ? Non ? Personne ? Parfait, on continue.
19-20, le rendez-vous, c'est sur France Culture.
Plateau Phénomène avec vous, Philippe Ram, vous êtes architecte suisse, professeur à Harvard, un architecte qui poursuit depuis les années 90 une réflexion non pas sur le bâti, mais sur les éléments invisibles de l'architecture, c'est-à-dire le climat, la ventilation, la température et la lumière. Vous publiez aujourd'hui aux éditions des Petits Matins Météorologie des Sentiments, c'est un recueil de nouvelles, 17 à la première personne, et toutes portent le titre d'un phénomène climatique ou atmosphérique. Il y a radiation, insolation, pression, évaporation, climatisation. Et toutes relatent un souvenir plus ou moins lointain dans lequel vous faites l'expérience sentimentale d'un phénomène, le soleil, la chaleur, le froid, l'éblouissement, changement de température, d'altitude, jusqu'au sentiment amoureux que vous associez dans la dernière nouvelle à la torpeur d'un été romain. Qu'est-ce qu'une telle forme subjective et autobiographique vous permet de dire de plus que votre pratique d'architecte ?
Ce livre, c'est une demande. Donc, effectivement, j'ai eu cette occasion de faire ce livre de littérature. Je ne sais pas comment on peut l'appeler. Et effectivement, j'ai essayé d'y mettre dans la forme, en fait, la même manière que j'ai d'aborder la question de l'architecture. Et c'est vrai qu'en architecture, la question, parce que il y a ce lien central entre l'architecture et le climat, parce que en réalité, l'architecture, pourquoi on a besoin d'architecture, c'est parce qu'il fait trop chaud dehors, et donc on crée des enveloppes, des poche plus fraîche avec l'architecture, pourquoi, ou alors où il fait plus, il y a plus d'ombre ou moins de lumière. Donc c'est-à-dire l'architecture en réalité c'est la construction d'atmosphère. On modifie localement le climat pour le rendre plus confortable, plus habitable. Donc effectivement il y a ce glissement comme ça du champ, comme vous disiez, vous parliez du bâti. Effectivement, la mission principale de l'architecture, c'est pas le bâti, enfin, c'est pas les murs en pierre, mais c'est l'espace, la lumière, la température qu'on crée à l'intérieur. Donc ce glissement qui est fondamental dans ma pratique d'architecte, en fait, effectivement, je l'ai mis également dans une forme littéraire, en essayant de voir de quelle manière, en fait, le climat, des phénomènes météorologiques, en fait, habitent la manière de vivre et d'avoir des sentiments.
Manu Farine.
Ces souvenirs-là, Philippe Rann, donnent évidemment des clés quant à votre parcours d'architecte, on l'a compris. Pour autant, quel aura été véritablement l'élément déclencheur qui vous a amené à travailler sur ces données invisibles ? Est-ce que c'était un texte ? Est-ce que c'était un projet ?
En fait, la base, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que, en fait, dès le départ, j'avais une forme de méfiance par rapport à des questions d'abstraction. C'est-à-dire, je me suis dit, j'ai toujours pensé que l'architecture était complètement liée aux phénomènes physiques, à la pesanteur, à la pluie. Enfin, on crée une maison parce qu'on se protège de la pluie. Donc, c'est ça la raison fondamentale. Et cet intérêt matériel, physique, en fait, à dériver d'un intérêt sur les matériaux à des questions aussi de l'homme dedans et effectivement sur la question du climat, de la température, de la lumière. Donc je pense que L'intérêt sur la météorologie ou le climat est fondamentalement lié à l'essence même de l'architecture, à la mission même de l'architecture. Ensuite, effectivement, il y a eu quelques expériences qui ont été faites, qui sont personnelles, mais qui sont secondaires par rapport, en fait, à des enjeux qui sont réellement liés au langage de l'architecture, à ce qu'est l'architecture en tant que telle.
Alors, pour mesurer les enjeux de votre travail, on va revenir un petit peu en arrière. En 99, vous vous lancez dans votre première réalisation avec la maison de Fabrice Hibert, l'artiste Fabrice Hibert, donc en Vendée. Vous importez carrément le climat de Tahiti dans cette maison. Quels étaient pour vous les enjeux d'un tel premier geste qui créait finalement des temporalités plutôt que des espaces, comme tout bon architecte?
En réalité, c'est l'insoupçonné, enfin, ou le non-dit de l'architecture. C'est-à-dire que quand on crée un espace, quand on crée une maison, on crée un climat printanier. Quand il fait froid dehors, enfin c'est ça le chauffage moderne. En réalité, un radiateur, c'est de créer le climat de Tahiti chez soi. Ce pauvre radiateur électrique, en fait, c'est une forme d'importation en temps réel du climat de Tahiti, voire même du paradis terrestre d'Adam et Ève. Enfin, etc. Il y a quelque chose ou de l'été quand c'est l'hiver. Donc, le projet pour Fabrice Hibert était de finalement de révéler cette mission fondamentale de l'architecture, qui est de créer en fait un printemps en hiver ou un printemps en été, enfin, et de le faire pas seulement avec la température, mais également avec l'humidité de l'air, avec l'odeur des fleurs, avec la lumière de Tahiti. C'est-à-dire que finalement, on augmentait le chauffage à tous les éléments climatiques et on créait en fait une maison dans laquelle il y avait tout le climat de Tahiti, mais sans aucune narration. Ça, c'est quelque chose d'important dans mon travail. C'est-à-dire, il n'y avait pas une seule image de Tahiti, pas une seule image de palmier. Tout était invisible. Tout était, en fait, dans le ressenti réel, dans la production réelle du climat.
Et ça a bouleversé quelque chose dans, justement, les gens qui habitaient cette maison, Fabrice Hibert? Son comportement?
En réalité, Fabrice Hibert n'y a pas habité.
J'imagine.
Mais pour nous, en tout cas, ça a été important, puisque je crois que ça a été fondamental au début de ma pratique, cette idée de construire des atmosphères, de travailler sur des atmosphères. Et je crois que effectivement, il y a une idée de faire les choses réellement, de construire. Enfin, c'est-à-dire, on ne représente pas, on présente les choses. On représente pas des climats, mais on les construit réellement avec tous les éléments qui les composent, les éléments chimiques, biologiques, électromagnétiques qui composent l'espace. Et on travaille le vide, en fait, comme une matière, travaille l'espace, l'architecture, comme une matière, en créant son design.
15 ans plus tard, un nouveau projet, Manu Farine.
Oui, alors vous poursuivez ces importations et déplacements de climat, entre autres, hein, parce qu'il y a tout un tas d'autres choses. Par exemple, dans le parc à Taïwan que vous venez de concevoir, un parc dans lequel vous avez imaginé des parcours, des lieux de stationnement avec des appareils climatiques qui peuvent aussi bien rafraîchir que déshumidifier ou même recréer par exemple le froid de la nuit en plein jour. Quels sont les premiers retours de l'usage de ce parc ?
Alors, pour le moment, il y a la construction du parc. C'est un concours international qu'on a gagné il y a 4 ans. La construction a commencé il y a 1 an. Donc, il y a les premiers, ce qu'on a appelé des climatic devices qui sont construits. C'est un parc de 70 hectares. Donc, c'est à peu près 3 fois la Villette. Assez important comme taille qui est en construction actuellement. Et les premiers éléments, en fait, on a mis en place tous des éléments de comment rafraîchir. Enfin, on est vraiment revenu sur la mission fondamentale d'un parc. En fait, quand on lit Haussmann, Alphan à l'époque d'Haussmann ou Olmsted à New York, en fait les choses fondamentales du parc, c'est de rafraîchir et de dépolluer. C'était ça la mission première. Donc on s'est dit comment on va rafraîchir, dépolluer et déshumidifier, et on a cherché toutes les techniques à la fois végétales, par des arbres que j'entendais ce matin sur France Culture en vous écoutant, que un philosophe disait que les séquoias géants allaient mourir parce qu'il n'y aurait plus assez de nuages sur la côte ouest américaine, parce qu'ils ont besoin d'absorber la vapeur d'eau pour grandir. Donc on a mis ce type d'arbres qui absorbe, qui déshumidifie en fait en absorbant la vapeur d'eau à l'extérieur, mais aussi on a mis des arbres aussi qui rafraîchissent. On a cherché toutes les techniques et également les techniques artificielles en utilisant des systèmes de géothermie pour souffler de l'air froid, pour rafraîchir des sortes d'ombres, en sélectionnant les longueurs d'onde qui sont précisément les plus froides. Enfin, on s'aperçoit que c'est le violet, c'est là où il y a le moins d'intensité cité lumineuse, et puis c'est celle qui pénètre aussi le moins profondément à l'intérieur de la peau. Donc on a cherché en fait toutes les techniques pour rafraîchir, déshumidifier, dépolluer, et on a fait un catalogue, une sorte d'encyclopédie de tous ces appareils qui sont ensuite disposés dans le parc en fonction des vents, en fonction de paramètres. Le master plan, en fait, le plan masse, le plan du parc a été composé en fonction d'éléments climatiques également.
Qu'est-ce que ça vous inspire, Romain Troublet ?
En écoutant Rémi et Duncan et en vous écoutant, je me dis que le 30 novembre prochain, quand la négociation va commencer, on va mettre la température de la salle à 19 degrés et chaque jour on va mettre un degré de plus. Et on va arriver le 10 décembre, il va faire 29 ou 30 degrés dans cette salle, je pense que ça va être intenable. Ils vont vouloir faire trouver tous les moyens possibles pour refroidir. Ah, c'est sympa.
D'accord.
C'est-à-dire que dans les projets un peu délirants dans lesquels on voulait faire, se poser la question de dans quels espaces doit-on négocier pour que ça marche, forcément. Et moi, je avec plusieurs de mes camarades du programme SPIP, j'avais le désir fou de créer des espaces où justement il y aurait des changements de température extrêmement forts, passant du froid au chaud, et puis surtout même de monter des eaux, c'est-à-dire qu'il y avait une fosse où tout d'un coup on pouvait mettre tous nos négociateurs dans cette fosse et faire monter le niveau de l'eau petit à petit jusqu'à ce qu'ils arrivent à un accord, et s'ils ne trouvaient pas d'accord, ils auraient de l'eau jusqu'aux épaules et tous leurs ordinateurs seraient foutus. Ça faisait partie des choses un peu délirantes. Donc peut-être qu'au décembre, la vraie conférence sur le climat, ce serait formidable de pouvoir les mettre dans des contextes comme cela.
Philippe Ram ?
Effectivement, pour moi la question de la température, la question du taux d'humidité, de l'intensité lumineuse est un élément central de mon travail. J'ai l'impression qu'en tant qu'architecte, c'est avec ça qu'on doit travailler plus qu'avec du béton armé ou du fer. Donc c'est des nouvelles briques en fait de l'architecture, c'est ces nouveaux éléments. Et est-ce que c'est 21 degrés, est-ce que c'est 21,5 degrés, qu'est-ce qu'on va mettre précisément, et en tant que designer, comment on va dessiner, est-ce qu'on va décider à un moment de mettre 18,6 degrés comme ça. Donc ça, c'est ça. Et je pense que en réalité, ça peut inventer un nouveau style. Et ça, c'est un projet sur lequel on a travaillé récemment. C'est de se dire, si on regarde les intérieurs parisiens, il y a eu le style Marie-Antoinette, le style Louis XV, des différents styles. Et aujourd'hui, en fait, tous ces styles sont devenus caducs parce qu'en réalité, le chauffage électrique permet de chauffer l'espace. Mais alors qu'on s'aperçoit qu'en réalité, par exemple, les tapisseries au Moyen-Âge et au départ étaient des choses contre le froid. Contre des sortes d'éléments en fait isolants qui empêchaient les radiations froides des murs, ou la même chose le tapis, les mêmes choses les miroirs qui sont pour multiplier la lumière parce qu'il y a un manque de lumière, la même chose pour les boiseries qui en fait bloquent aussi la radiation. Donc en fait, ça perçoit que tous les éléments décoratifs en fait sont des éléments liés au confort et au climat, et c'est tous ces éléments ont disparu au XXe siècle. C'est pour ça que Adolf Loos a dit que l'ornement était un crime, enfin on a supprimé tout ça puisque ça servait à plus rien. Il suffisait de monter le chauffage un peu et on n'avait plus besoin de tapisserie, plus besoin de tapis. Alors qu'aujourd'hui, en fait, quand on pense aux anciens bâtiments, c'est un projet justement pour l'hôtel de Coulanges dans la rue des Francs-Bourgeois, en fait, un vieux bâtiment, si on veut le mettre aux normes, ce qu'on appelle le RT 2020, enfin les réglementations thermiques pour 2020, en fait, le mur en pierre n'est pas suffisant pour isoler à l'intérieur. On est obligé de rajouter de l'isolation thermique, 20 cm, et cette isolation, on est obligé de la tourner au niveau des dalles, et tout d'un coup, on s'aperçoit qu'on est en train de créer une nouvelle corniche, une nouvelle moulure au plafond. Et en fait, on peut se dire, on va réinventer finalement, avec toutes les nouvelles contraintes de la RT 2020, de la transition énergétique, on peut réinventer un nouveau style décoratif. Alors on lui a donné le style en hommage à Bruno Latour peut-être, mais le style anthropocène, on se dit après le style art déco, le style moderne, c'est le style anthropocène, voilà, qui va prendre en fait, qui va chercher en fait tous les moyens d'arriver à des bâtiments qui ne consomment plus d'énergie.
Manu.
Comme à tous nos invités cette saison, Philippe Ram, on vous a demandé de choisir un son qui vous a marqué, et voici ce que vous avez suggéré. Identification de ce son, Philippe Ram, et pourquoi l'avoir choisi, si c'est bien le bon ?
Oui, c'est ça. C'est des sons de petites cloches qu'il y a au Japon, qui sont très belles. Enfin, il y en a certaines qui sont en verre, d'autres en acier, mais celles en verre sont particulièrement jolies. Et en fait, elles sont là. C'est un élément de rafraîchissement. C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'il y a un petit peu de vent, ouais, en fait, il y a un petit bout de papier qui se met à battre, et donc ça se met à sonner. Et pour les Japonais, ça rafraîchit psychologiquement. C'est-à-dire qu'ils savent qu'il y a un petit peu de vent, et donc c'est rafraîchissant comme ça. Et donc c'est un des éléments où au Japon on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de manières de rafraîchir, de réchauffer, qui sont très séparées, très ponctuelles comme ça, et j'ai toujours beaucoup aimé cette petit son comme ça qui indique une forme de fraîcheur.
Qui fait quoi? Pourquoi? Avec qui?
Laisser pénétrer la lumière naturelle et le vent qui soufflait.
Alors là, on a du pain sur la planche.
Merci à nos invités pour ce rendez-vous dans le cadre des 24 heures climat sur France Culture. Romain Troublé, il y a une exposition. Tara, les marins, les scientifiques et les artistes. Un voyage en Méditerranée. C'est à partir de mardi prochain jusqu'au 12 juillet à la Galerie du Jour Agnès B à Paris. Et il y a une autre exposition, L'eau de la mer. C'est jusqu'au 26 juin à la base Tara, toujours à Paris. Philippe Ram, Météorologie des sentiments, apparu aux éditions des Petits Matins. Et puis merci à nos deux étudiants de Sciences Po, Duncan Evenou et Rémi Rua. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain,
tous les mômes veulent devenir des hommes. La cigarette au lieu du bubblegum. Rejoignez-moi à Eleor.
Je suis moi, rien que moi.
Eh bien, demain, il faudra attendre lundi. Et lundi, ce sera le lancement de notre semaine 40 ans de chansons françaises dans le rendez-vous. Lundi avec Kent, mardi Dominica, mercredi ce sera Nash, jeudi Minuit et Fred Vargas, elle ne va pas chanter. Vendredi, Rap Machine avec This Is La Peste. Il y a des annonces, Elsa?
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Benoît Lagane, Manu Farine, Aïssa Twendoy et Elsa Béranger. Actualité culturelle, supplément week-end, Benoît Lagane et Zoé Sfez. Chronique Thomas Kla. À la prise de son, Alex Dang et à la réalisation, Liz Combe.
Ça, c'était envoyé. Il est 19h54, vous êtes sur France Culture et c'est bien. Et tout de suite, je vous laisse avec Denis Podalydès de la comédie
française.
Alors, bonne soirée, bon week-end, à lundi.